Tu les aimes, tes cours de philo?
C'est vraiment très enrichissant.
Ça demande encore un peu de pratique.
Bonjour, cher Aurélien.
Bonjour, chère Adèle.
Eh bien, avec nous, comme tous les jours, depuis chez vous, ça ne vous empêche pas de nous poser, de vous poser une question par jour. Celle du jour, la voici. Le bonheur se cache-t-il dans une encyclopédie?
Alors, il n'y a pas si longtemps, je connaissais le raccourci clavier, un peu sophistiqué car il fallait utiliser ses trois doigts, qui permettait de passer d'une page de Wikipédia à une autre de façon complètement aléatoire. Alors pour les moins de 30 ans, qui ont connu surtout l'internet un peu téléguidé des réseaux sociaux, pour les moins de 20 ans à qui sont destinées les boucles automatisées de TikTok, je dois rappeler l'existence de cette pratique primitive et propre au premier internet qu'on appelait surfer. Surfer, c'était, dans la droite ligne de la doctrine de Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, cliquer sur des liens hypertextes pour passer d'un site à l'autre. Et les plus anciens se souviennent que ces liens hypertextes étaient bien, à l'origine, bleus comme des vagues.
Et ainsi, vous surfiez à travers les pages de Wikipédia.
Surfer dans les encyclopédies, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de nos vies à nous, les vieux milléniaux, qui avons connu le monde de Gutenberg in extremis, juste avant celui d'Internet, le monde du quid et de tout l'univers, des grands Larousse en 5 volumes et des Universalis achetés à crédit. Hélas, celle-ci ne se négocie plus que 50 euros sur le bon coin, et comme j'en avais déjà deux, je n'ai pas pris celle qu'on avait déposée l'autre jour sur un trottoir de ma rue, grande et triste comme un enfant de 7 ans, ni celle qu'on a voulu m'offrir l'autre jour, je me suis contenté de l'Encyclopédia Britannica. J'aime tellement les encyclopédies, ces icebergs à la dérive du monde ancien, ces arbres de la connaissance déracinés et entraînés dans les eaux froides du monde, des algorithmes, que c'est à une encyclopédie que je voulais faire ressembler mon premier roman à une longue succession de pages. Au hasard, cela devait être, dans mon esprit, une sorte d'esclave du monde du livre dans le monde numérique, les tomes d'une encyclopédie, épais comme les dalles des pages japonais, jetés dans l'herbe envahissante du monde de demain.
Bon, mais est-ce que vous pensez que le déclin des encyclopédies est inéluctable ?
Bah, sous leur forme antique, historique, de lourds volumes de papier, sans aucun doute. Mais Wikipédia, chef-d'œuvre accidentel d'un ancien pornographe, s'est en revanche bien imposé aujourd'hui, à la fois comme une source de connaissances fiable, mais aussi comme une des principales raisons qu'on peut trouver d'avoir encore confiance envers l'humanité. Parce qu'elle est collaborative, bénévole et gratuite, elle me semble relever d'un optimisme encore plus grand que celui qui a présidé au XVIIIe siècle au lancement de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Mais je me dois aussi de citer, chef-d'œuvre du genre, la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Alors, j'ai connu un monde où le dictionnaire de philosophie de référence était le vénérable et rougeoyant Lalande, et donc je sais ce que ce projet a de miraculeux, au point que j'ai commencé à vouloir stupidement en imprimer les pages quand j'ai découvert son existence, et qu'il doit m'en rester quelque part deux ou trois grands classeurs ardents, pleins des questions métaphysiques que je me posais alors sur les universaux, les mondes possibles et les particuliers nus.
Bon, en tout cas, ce qui me paraît clair, c'est que pour vous, le bonheur semble bien se cacher dans les encyclopédies.
Mieux que le bonheur, un sentiment de béatitude devant la perfection possible du savoir. Quelque chose de l'ordre de la révélation d'un ordre. Avec tout au fond ce merveilleux paradoxe dont j'ai redécouvert l'existence, l'éditeur en chef de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward Zalta, est un spécialiste du métaphysicien autrichien Meinong, qui, le premier, a osé considérer que les objets impossibles, comme le cercle carré, comme l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes, que ces objets impossibles avaient le droit, eux aussi, à un certain type d'existence. Et je me souviens, alors, avec émotion, que j'ai connu un monde non moins paradoxal où les encyclopédies papier, cette aberration éditoriale, avait eu, elle aussi, droit à l'existence.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie.